Une petite question pour débuter. Savez-vous depuis combien de temps la République existe en France ? À peu près, à la louche. Depuis quand on n'est plus une monarchie, on va dire ? Depuis 1848. Pendant plus d'un millénaire, la France a été un royaume. Plusieurs dynasties de rois sont succédées. Je fais appel à vos souvenirs d'école. Moi, je les revois avec mes enfants. Hein. D'abord, les Mérovingiens avec Clovis. Bon, je suis pas sûr que ce soit son vrai portrait, hein, l'ami Clovis. Ensuite, les Carolingiens avec Charlemagne, notamment, qu'on connaît tous. Et ensuite, les Capétiens avec Hugues Capet. Voilà les rois un peu connus. Après la Révolution, la monarchie a continué. Une monarchie constitutionnelle. Et c'est seulement en 1848, sous Bonaparte, que la République a été proclamée en France. Aujourd'hui, tout cela nous semble bien lointain, très loin, très éloigné de nous. Et si vous êtes comme moi, vous ne comprenez vraiment pas pourquoi les Anglais sont encore tellement attachés à leur royauté, à leur reine, et ainsi de suite. Désolé pour les sujets de Sa Majesté, s'il y en a certains parmi nous ce matin. Mais c'est vrai, pour moi c'est incompréhensible. Si je vous parle de royaume, c'est parce que le texte que nous allons étudier ce matin évoque aussi un royaume. Mais pas un royaume terrestre. Il évoque un royaume céleste, le royaume de Dieu. Après avoir raconté la parabole du semeur que nous avons étudiée en janvier avec Charlie, on continue notre bout de chemin dans l'évangile de Marc. Et Marc nous livre trois courtes paraboles de Jésus, qu'on trouve en Marc 4, qui donnent toutes un enseignement à propos du royaume de Dieu. Et avant de découvrir ces trois courtes paraboles, je pense qu'il est juste bon dans un premier temps de rappeler ce qu'est une parabole et pourquoi Jésus a utilisé des paraboles, et de rappeler aussi ce qu'est le royaume de Dieu. Parce que parfois, on a peut-être des mauvaises notions de ce dont il s'agit. Alors, une parabole. Une parabole, c'est d'abord une histoire fictive que Jésus utilisait pour deux raisons principalement, qu'on voit en Marc 4, versets 33 à 34. Marc 4, verset 33, Jésus utilisait ça d'abord pour s'adapter à son auditoire. Par beaucoup de paraboles de ce genre, il enseignait la parole de Dieu à ses auditeurs en s'adaptant à ce qu'ils pouvaient comprendre. Jésus s'adaptait à ses auditeurs en employant un langage imaginé, qui leur était familier. Jésus utilisait les paraboles pour illustrer son enseignement, conduire ceux qui l'écoutaient à la réflexion, à l'action. C'est des histoires qui sont faciles à mémoriser. Les personnages sont marquants. Les situations aussi, les symboles derrière sont forts. Et il faut savoir qu'à l'époque, les paraboles, c'était un peu une méthode d'enseignement que la plupart des enseignants utilisaient. Jésus n'a pas vraiment innové à ce niveau-là. Des affirmations directes sur le thème du royaume de Dieu n'auraient sûrement pas été comprises ni acceptées par beaucoup de juifs à ce moment-là. Et c'est pour cela aussi que Jésus a utilisé les paraboles pour enseigner le peuple par rapport à ce sujet du royaume de Dieu. Deuxième raison pour laquelle Jésus utilisait ces paraboles, c'est aussi pour enseigner ses disciples plus directement. Au verset 34, il ne leur parlait pas sans se servir de paraboles au peuple. Hein. Et lorsqu'il était seul avec ses disciples, il leur expliquait tout. Jésus racontait les paraboles au peuple, mais réservait leur explication aux disciples uniquement. La question qu'on se pose inévitablement, pourquoi ? Pourquoi Jésus expliquait ses paraboles seulement aux disciples ? Les disciples eux-mêmes se sont posé la même question et Jésus leur a répondu en Matthieu 13, versets 10 à 16. Alors ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Pourquoi te sers-tu de paraboles pour leur parler ?» Jésus leur répondit « Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux. Eux ne l'ont pas reçu. Car à celui qui a, on donnera encore, jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Voici pourquoi je me sers de paraboles pour leur parler. C'est que bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Et bien qu'ils écoutent, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Et ils ont fait la sourde oreille. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient et que leurs oreilles n'entendent. De peur que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se tournent vers moi et que je les guérisse. Vous, au contraire, vous êtes heureux. Vos yeux voient et vos oreilles entendent. » Au début de son ministère, Jésus a eu un enseignement très direct, comme par exemple lors du serment sur la montagne, qu'on connaît tous en Matthieu. Mais après avoir été rejeté par les leaders religieux, qui se sont opposés de manière ferme et définitive contre Jésus, en accusant le fait que son pouvoir de guérison, son pouvoir de miracle venait de Satan, après ces moments-là, Jésus a changé sa manière d'enseigner. Il n'a plus eu un enseignement direct vis-à-vis des foules et vis-à-vis des leaders religieux, mais un enseignement en parabole. Lorsque Jésus parlait, il parlait par des paraboles. Et il réservait l'explication de ces paraboles à ses disciples. Il laissait volontairement, dans leur aveuglement spirituel, ceux qui persistaient dans leur rejet de son message. Il faisait une distinction très nette entre ceux qui avaient foi en lui et ceux qui persistaient dans l'incrédulité. Pour ceux qui ont réellement soif de Dieu, les paraboles constituent un moyen efficace, facilement mémorisable, encore une fois, de transmettre les vérités divines. Les paraboles contiennent beaucoup de vérités en peu de mots. Elles sont riches en images, elles ne s'oublient pas facilement. Les paraboles sont donc une bénédiction pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, pour ceux qui sont spirituellement à l'affût de Dieu, qui recherchent Dieu. Mais elles sont aussi, pour ceux dont le cœur est endurci et les oreilles bouchées, un acte de jugement. Et c'est pour ça que Jésus parlait en paraboles, pour que ce soit un acte de jugement par rapport à des personnes qui ne voulaient pas entendre son enseignement. Il réservait l'explication à ses disciples qui étaient avides de la connaissance de Dieu. Le royaume de Dieu maintenant, de quoi s'agit-il ? Le royaume de Dieu, ou royaume des cieux, dans l'évangile de Matthieu, est au centre des trois paraboles qu'on va étudier ensemble ce matin. Et ça décrit tout simplement la sphère où Dieu règne, où sa volonté est respectée, accomplie. Il s'agit d'une réalité spirituelle, pas d'un territoire politique. On a chanté ce matin « Tu es le roi, tu es roi du ciel et de la terre ». Dans sa prière, Élie nous a relu « À l'agneau sur le trône ». Dieu est sur le trône, Christ est sur le trône. Et dans son enseignement, Jésus expliquait que ce royaume est à la fois présent et futur. Il est présent dans le sens que pour Jésus, le royaume était déjà présent en sa personne. Il est roi. Et dans son ministère, à travers tous les miracles et tout ce qu'il a pu accomplir. Et ce royaume est encore actuel aujourd'hui. Nous faisons partie de ce royaume en tant que chrétiens. Parce que Dieu règne dans nos vies. Dieu règne sur nos motivations et nos actions. Mais ce royaume est aussi futur. Jusqu'à présent, le royaume de Dieu n'est présent que partiellement dans ce monde. On ne peut que le constater avec tout ce qui nous entoure et le péché qui habite en nous aussi, qui règne en nous parfois, la situation de ce monde. Le règne de Dieu sera généralisé un jour. Le règne de Dieu sera effectif à la fin des temps. Et ce règne de Dieu est présent aujourd'hui, de manière partielle, et sera complet dans le futur. Venons-en maintenant à notre première parabole, la parabole de la lampe, en Marc 4, versets 21 à 25. Il leur dit aussi, « Est-ce qu'on apporte une lampe pour la mettre sous une mesure à grain ou sous un lit ? N'est-ce pas plutôt pour la mettre sous un pied de lampe ? Tout ce qui est caché doit être mis en lumière, tout ce qui est secret doit paraître au grand jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il ajouta, « Faites bien attention à ce que vous entendez. » On vous appliquera la mesure dont vous serez servi, pour mesurer. Et on y ajoutera. Car à celui qui a, on donnera encore. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. De manière un peu étrange, Jésus utilise dans cette parabole une métaphore visuelle, la lampe qui éclaire, pour attirer notre attention sur une bonne écoute de la parole. Ou une mauvaise écoute de la parole. Dans cette parabole, donc, il est question d'une lampe qui allumait. Et dans le contexte de ce passage, la lampe se rapporte à l'enseignement donné par Jésus. Comme l'exprime par exemple le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Cette lumière, c'est la parole de Dieu. C'est l'enseignement que Christ révélait au peuple et à ses disciples. Cette lampe représente donc toutes les vérités que Christ a révélées à ses disciples en privé. Il est complètement illogique, vous en conviendrez, de mettre une lampe sous une mesure à grain sous un lit. Lorsqu'on allume une lampe, c'est pour profiter de sa lumière et pas pour rester dans la pénombre, forcément. Et Jésus insiste sur l'importance de permettre à la lampe de remplir sa fonction première, c'est-à-dire de nous éclairer, d'éviter que nous soyons dans les ténèbres, d'y voir clair. Et de la même manière, l'enseignement de Jésus avait pour but de communiquer la vérité et pas de la dissimuler, pas de la cacher. C'est ce qu'il veut dire lorsqu'il affirme au verset 22 de ce texte que ce qui est caché doit être mis en lumière, ce qui est secret doit paraître au grand jour. le plan de Dieu qui jusque-là était caché, d'une certaine manière, est en train d'être révélé aux yeux de tous. Même si beaucoup ne le comprennent pas, même si beaucoup ne l'acceptent pas, Jésus est venu révéler le plan de Dieu, le plan qui va l'amener à la croix. Jésus rappelle que son but n'est pas de cacher, mais de révéler le plan de Dieu, révéler les mystères du royaume de Dieu. Il est la lampe qui brille, il est la lampe fondamentale qui brille afin que tous profitent de sa lumière. Et c'est pour ça que Jésus était là, pour révéler le royaume de Dieu, pour révéler les mystères cachés du royaume de Dieu. Au-delà de la lumière de Christ, chaque chrétien, vous et moi, pouvons être comparés à une lampe que Dieu a allumée, comme le dit Jésus en Matthieu 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Sandrine a prié dans ce sens ce matin aussi. « Vous êtes la lumière du monde. » Lorsque Dieu se révèle à nous, il allume notre lampe quelque part. Il fait de nous des lumières. Dieu veut que cette lumière resplendisse. Il ne veut pas que notre lumière soit cachée, il veut qu'elle resplendisse. Il arrive néanmoins que la lueur d'une lampe soit à peine perceptible, parce qu'on cache, on la cache, on met quelque chose dessus. Et de la même manière, Dieu nous appelle à ne rien laisser couvrir ou voiler au niveau de notre lumière. Nous sommes appelés à resplendir là où Dieu nous place. Et dans ce sens, Paul nous encourage en Colossiens 3, verset 16, il dit « Que la parole de Christ habite en nous dans toute sa richesse. » Cette parole représentée par la lumière dans cette parabole. La parole de Christ doit habiter en nous dans toute sa richesse. Lorsque nous laissons la parole de Christ nous remplir, habiter en nous dans toute sa richesse, c'est dans ces cas-là que notre cœur est prêt et que nous pouvons resplendir de la lumière de Dieu, que nous pouvons resplendir de l'enseignement de Dieu là où il nous a placés. C'est dans ces cas-là, quand la parole de Dieu prend le contrôle de notre vie, de notre cœur, que nous reflétons le plus la glorieuse lumière de Christ à travers le monde. Suite à cette parabole, Jésus donne trois avertissements solennels. D'abord, il dit, au verset 23, que celui qui a des oreilles doit entendre. Par cette parole que Jésus répète régulièrement dans les évangiles, Jésus invite ses auditeurs à faire preuve de réceptivité spirituelle, c'est-à-dire à bien comprendre son message et à en mesurer toutes les implications. Il dit ensuite, au verset 24, que celui qui mesure sera mesuré. Jésus attire notre attention sur l'importance cruciale des choses dont il parle. La parole de Dieu peut être autant une source de vie qu'une parole de jugement pour ceux qui ne l'acceptent pas, une parole de condamnation. L'attitude de celui qui écoute déterminera l'action de Dieu, l'action de la parole de Dieu sur lui. La manière dont je juge l'enseignement de Jésus sera déterminante dans la manière dont Jésus me jugera. C'est dans ce sens-là. Si je mesure Jésus plus bas que terre, Jésus me jugera. Si je mesure Jésus comme le Fils de Dieu, Jésus m'acceptera. Un dernier avertissement, celui qui a recevra encore davantage. À celui qui accepte l'enseignement de Jésus, Dieu lui donne dès maintenant l'occasion de participer à son royaume, en étant une lumière, tout simplement, dans ce monde. Et il y ajoutera des bénédictions par la suite, lorsque le Messie reviendra pour régner pleinement. Dieu sera plein d'attention à l'égard de ceux et celles qui auront été attentifs au message du royaume de Dieu. Accepter l'enseignement de Christ, c'est la condition essentielle pour recevoir encore davantage que simplement cette vie présente. Mais à celui qui rejette l'enseignement de Jésus, Dieu lui fera subir une perte complète, parce que non seulement il fait fausse route sur cette vie terrestre, il n'est pas une lumière, il est loin de Dieu, mais en plus il ne pourra même pas avoir part au royaume de Dieu à venir. Et c'est dans ce sens-là qu'il perdra encore tout. Il fait fausse route aujourd'hui et se plante pour son avenir. Quelques applications pour nous aujourd'hui de cette parabole. D'abord, tout simplement, le royaume de Dieu exige une réponse. À travers cette parabole, Jésus démontre que le royaume de Dieu exige une réponse. L'enseignement de Jésus nous révèle quelle sorte de personne nous sommes, si nous sommes spirituellement ouverts à Christ ou non. À l'époque de Jésus, beaucoup de monde le suivait pour être guéri, parce qu'ils aimaient peut-être écouter ce qu'il disait, ou encore parce qu'ils étaient fascinés par l'homme, le personnage, mais n'avaient pas vraiment la foi en lui. Ils écoutaient, mais n'agissaient pas selon ce qu'ils entendaient de la parole de Christ. Et nous sommes appelés à écouter, c'est vrai, mais aussi à agir en conséquence de ce que la Bible, de ce que la parole nous dit. Ce matin, si vous êtes venu juste pour passer un temps agréable, écoutez quelques prières, écoutez peut-être un enseignement sympa, et repartir après en oubliant tout. La parole de Dieu est claire, ça ne sert à rien. Si nous ne sommes pas prêts à écouter pour appliquer dans nos vies l'enseignement de Christ, à offrir une réponse favorable à l'enseignement de Christ, le dimanche matin n'a aucune utilité. Aucune. Jésus exige une réponse de nos cœurs. Une réponse ferme et définitive par rapport à ce à quoi il nous appelle. Et que nous ayons des cœurs attentifs à cela. Deuxième application, le royaume de Dieu exige aussi un témoignage de la part de ceux et celles qui sont des lumières dans ce monde. Jésus a utilisé ses paraboles et les a expliquées à ses disciples. Mais ces explications ne devaient pas rester simplement aux disciples. Ces disciples devaient par la suite expliquer les paraboles de Jésus. Ils devaient délivrer l'enseignement de Christ autour d'eux. Leur mission était de communiquer au monde entier le message de Christ, la bonne nouvelle. Ce qu'ils entendaient devait être témoigné à tous les hommes pour les éclairer. Et la mission n'a pas changé. Aujourd'hui, et vous le savez bien, en tant que chrétien, en tant que disciple de Christ, nous sommes appelés à être des lumières, nous sommes appelés à pouvoir partager notre foi, à pouvoir expliquer qui est vraiment Jésus, à pouvoir expliquer ce qu'est vraiment la parole de Dieu autour de nous. Nous avons toujours cette mission première. Jésus exige notre témoignage. Seconde parabole, celle de la semence. La seule parabole qu'on ne trouve que dans l'évangile de Marc. Il dit aussi, il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui a répandu de la semence dans son champ. À présent, qu'il dorme ou qu'il veille, la nuit comme le jour, le grain germe et la plante grandit sans qu'il s'en préoccupe. D'elle-même, la terre fait pousser le blé, d'abord la tige, puis l'épi vert et enfin le grain de blé remplissant cet épi. Et lorsque le grain est prêt à être cueilli, l'homme y porte aussitôt la faucille car la moisson est prête. Cette parabole, quelque part, d'une certaine manière, complète la parabole du semeur en expliquant de manière plus approfondie les résultats de ce qui est semé dans la bonne terre. Et dans cette parabole, on remarque trois étapes. La semence, la croissance et la moisson. Avec un accent tout particulier sur la croissance, l'étape du milieu. Tout va très vite. On croirait voir un film à vitesse accélérée presque. Il y a une seule personne présente dans toute cette parabole, le semeur, qui n'est pas identifié. On pourrait penser qu'il s'agit peut-être de Jésus, comme dans la parabole du semeur. Mais ce n'est pas certain. Car cet homme jette la semence sans vraiment savoir comment la croissance se produit. Et ça, ce n'est pas applicable à Jésus. Jésus sait, connaît le travail du Saint-Esprit dans nos cœurs. Cet homme jette aussi de la semence, et pas sa semence, comme dans la parabole du semeur. Le semeur de la parabole du semeur jette sa semence. Là, c'est un homme qui jette de la semence. Autrement dit, il répand une semence qui appartient à Dieu et pas à lui. Il transmet l'enseignement de Jésus et pas ses propres idées. Ces deux points semblent indiquer que l'homme de cette parabole est plutôt un disciple de Christ et pas Christ lui-même. Et le semeur de cette parabole représente en fait tout chrétien qui répand la bonne nouvelle du salut en Christ. Dans cette parabole, Jésus veut attirer l'attention sur le fait que même si le semeur est présent, il ne peut rien faire pour faire germer ou faire croître le grain. C'est vrai qu'il peut agir sur les circonstances, plus ou moins favorables, en semant au bon endroit, en faisant attention à tout ce qui va avec, mais le pouvoir de faire croître la semence ne lui appartient pas, tout simplement. Il ne détient pas la puissance qui engendre la vie. Sa responsabilité consiste à semer, à arroser, à récolter, mais pas à faire croître. Au verset 28, il est dit que la terre fait pousser le blé. Le terme grec utilisé ici pourrait être traduit par « sans cause visible », laissant sous-entendre « sans agent humain », et faisant ainsi un point sur l'œuvre de Dieu pleine. Autrement dit, seul Dieu peut faire croître la semence. Ça ne nous appartient pas, c'est le travail de Dieu. Et cela met en évidence l'impuissance humaine dans la croissance du royaume de Dieu. La croissance spirituelle s'effectue indépendamment du pouvoir ou de l'habileté de l'homme. Indépendamment du pouvoir ou de l'habileté de l'homme, la parole agit dans le cœur et porte du fruit pour Dieu. la croissance se réalise sous l'initiative de Dieu pendant l'étape intermédiaire entre la proclamation par Jésus, par ses disciples, la semence, et la manifestation finale du royaume de Dieu, la moisson. Et cela illustre parfaitement les paroles de Paul en 1 Corinthiens 3, verset 6 à 7, qui dit « Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. » Peu importe en fait qui plante et qui arrose, ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. Deux applications là aussi. D'abord, le royaume de Dieu, c'est un peu l'œuvre du disciple. À travers cette parabole, Jésus souligne que nous avons un rôle à jouer dans son œuvre. Plus encore, nous avons une responsabilité. La responsabilité, comme on l'a déjà vu dans la parabole précédente, de semer la parole, de témoigner. Nous devons profiter des occasions qui nous sont données et même créer des occasions favorables pour répandre la parole de Dieu autour de nous. Le royaume de Dieu, c'est surtout beaucoup l'œuvre de Dieu. Si nous avons la responsabilité de semer, il ne nous appartient pas de faire grandir la semence. On n'est pas capable de le faire. C'est le rôle de Dieu. C'est lui le principal protagoniste de la croissance de son royaume, et pas nous. Tout ne dépend pas de nous, mais de lui. Et nous pouvons être confiants et encouragés, car Dieu œuvre, et la croissance est certaine pour la parole qui est semée dans la bonne terre. Dieu œuvre, et Dieu nous promet la croissance pour la semence qui est semée dans la bonne terre. La croissance spirituelle est certaine pour celui à qui on témoigne et qui a un cœur prêt à écouter. Et par rapport à cette image du royaume qui est l'œuvre un peu du disciple et beaucoup de Dieu, il y a une belle histoire que je vais laisser Manu vous donner. C'est une histoire qui prend un peu de temps, mais je pense qu'elle est vraiment importante d'être lue en entier.
C'est une histoire extraordinaire que je vais vous raconter. Cela a commencé voici quelques années dans une église dans le sud de Londres. Un homme rendit un bref témoignage. « Je suis venu habiter ici il y a peu de temps. Auparavant, je vivais à Sydney, en Australie. Il y a quelques mois, je rendis visite à quelques parents là-bas et me promenais dans George Street. Un petit homme légèrement bizarre, aux cheveux blancs, sortait d'un magasin. Il me mit un traité dans la main et me demanda « Mes excuses, monsieur, êtes-vous sauvé ?» Cette question me déconcerta. Jamais personne ne m'avait demandé une telle chose. Je le remerciai poliment, mais pendant mon long voyage de retour à Londres, j'en fus passablement perturbée. Je pris contact avec un ami, chrétien, qui me conduisit à Christ. Une semaine plus tard, je pris l'avion pour Adélaïde, dans le sud de l'Australie. Pendant une série de réunions dans une église, une femme vint vers moi pour me demander quelques conseils. Je m'informai tout d'abord de sa position quant à Christ. Elle me dit ceci. J'ai habité jadis à Sydney, et il y a quelques mois, j'y ai visité plusieurs amis. Alors que dans George Street, je faisais quelques emplettes, un petit homme bizarre aux cheveux blancs sortit d'un magasin et se dirigea vers moi pour m'offrir un traité avec ces mots. « Mes excuses, madame, êtes-vous sauvée? Iriez-vous au ciel si vous mouriez cette nuit ?» Ces mots m'ébranlèrent. De retour à la maison à Adélaïde, où se trouvait une assemblée toute proche, je rendis visite à son pasteur. Cet entretien me conduisit à Christ. Je revins de nouveau à Londres et peu de temps après, je dus parler dans une autre église et j'y fis mention de ces deux témoignages. À la fin de cette série de réunions, quatre anciens pasteurs s'avancèrent et racontèrent qu'eux aussi, 25 à 30 ans plus tôt, avaient été sauvés suite au même incident. La fameuse question leur avait été posée à la remise simultanée d'un petit écrit dans la George Street. La semaine suivante, je pris l'avion pour assurer une réunion pour des missionnaires dans les Caraïbes. Là aussi, je fis mention des mêmes témoignages. Au terme de ma conférence, trois missionnaires s'avancèrent et affirmèrent qu'eux également, 15 à 25 ans plus tôt, avaient été sauvés par le même témoignage et la même question d'un petit homme dans la George Street à Sydney. Mon voyage d'évangélisation suivant me conduisit à Atlanta pour y parler durant 3 jours devant plus de 1000 chapelains de navires. Le principal d'entre eux m'invita à prendre un repas chez lui, et là je lui demandai comment il était devenu chrétien. Ce fut comme un miracle. J'étais matelot à bord d'un navire de guerre. Je menais alors une vie détestable. Un jour, complètement saoul, je me trompai de bus et en descendis pour me retrouver dans la George Street. À ce moment précis, je crus voir un fantôme. Un homme se dressant devant moi et me remettant un traité en disant « Matelot, es-tu sauvé ? Iras-tu au ciel si tu meurs cette nuit ? La peur de Dieu me saisit immédiatement. Je fus instantanément dégrisé et regagnai en courant le navire où je cherchais le chapelain. Celui-ci me conduisit à Christ. J'ai maintenant la responsabilité de plus de 1000 aumôniers de marine qui essaient à leur tour de gagner des âmes pour le Seigneur. 6 mois plus tard, je me rendis en Inde où 5000 missionnaires s'étaient rencontrés. À la fin de la réunion, le dirigeant de la mission m'invita. À lui aussi, je demandai comment il était devenu chrétien. J'ai grandi dans des conditions privilégiées. J'ai voyagé à travers le monde au nom de la représentation diplomatique de l'Inde. Pendant tout un temps, le service diplomatique m'a fait résider à Sydney. Un jour, alors que mes achats étaient terminés, je descendais la George Street. Un petit monsieur aux cheveux blancs se mit devant moi et me donna un traité en me demandant poliment « Excusez-moi, monsieur, êtes-vous sauvé ? Irez-vous au ciel si vous deviez mourir cette nuit ?» Je le remerciai beaucoup, mais cet incident me poursuivit. De retour dans ma ville natale, j'allai voir notre prêtre hindou. Ne pouvant m'aider, il me conseilla d'aller m'adresser à un membre de la mission situé au bout de la rue. C'était là un conseil judicieux, car ce jour même, le missionnaire me conduisit à Christ. J'abandonnai immédiatement l'hindouisme et commençai à me préparer pour le travail missionnaire. Je quittai le service diplomatique et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai la responsabilité de tous ces missionnaires qui, ensemble, ont déjà conduit à Jésus quelques 100 000 personnes. 8 mois plus tard, devant prêcher à Sydney, je me renseignai auprès du pasteur au sujet d'un homme aux cheveux blancs, d'un certain âge et de petite taille, qui distribuait des traités dans la George Street. Oui, je le connais, il s'appelle Monsieur Génor. Mais je ne pense pas qu'il effectue encore ce service, car il est fort avancé en âge et de santé fragile. 2 jours plus tard, nous nous rendîmes à sa petite demeure. Un vieillard minuscule et fragile nous salua et nous invita à entrer. Je lui parlai de tous ses témoignages, des 3 dernières années. Des larmes coulèrent sur ses joues. Et il se mit à me raconter sa propre histoire. J'étais matelot sur un navire de guerre australien. Je menais une vie dissolue. Lors d'une crise, je m'effondrais. Un de mes compagnons, à qui j'avais joué des mauvais tours, ne m'abandonna cependant pas et m'aida à me relever. Il me conduisit à Jésus et du jour au lendemain, ma vie changea du tout au tout. J'étais si reconnaissant à Dieu que je lui promis de rendre chaque jour un témoignage simple de Jésus à au moins 10 personnes. Dès que Dieu m'eut rendu des forces, je me mis au travail. Il m'arrivait parfois d'être malade et de ne pouvoir effectuer ce service. Mais dès que j'allais mieux, je récupérais mon retard. L'âge de ma retraite étant arrivé, je repris ma place habituelle dans la George Street, où chaque jour, je rencontrais des centaines de gens. J'y connus certes bien des rejets, mais il y avait aussi de nombreuses personnes qui acceptaient poliment mes traités. En 40 années de cette activité, je n'ai jamais entendu parler d'une seule personne qui serait venue à Jésus. Nous voyons ici ce qu'est une réelle consécration. Montrer de la reconnaissance et de l'amour pour Jésus durant 40 ans sans jamais voir un quelconque résultat.
Un simple petit traité donné, peu de choses, l'œuvre du royaume de Dieu et l'œuvre un peu du disciple, comme cet homme, et Jésus se charge du reste, l'œuvre merveilleuse du royaume de Dieu. Et je trouvais que c'était une très belle image de cela. La 3e et dernière parabole. Il continua en disant, « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ? Par quelle parabole pourrions-nous le présenter ? Il en est de lui comme d'une graine de moutarde lorsqu'on la sème dans la terre. C'est la plus petite des semences du monde. Mais une fois semée, elle pousse et devient plus grande que toutes les plantes du potager. Il y monte des branches si grandes que les oiseaux du ciel peuvent nicher à son ombre. » Jésus enchaîne donc avec cette 3e et dernière parabole qui présente encore une autre image du royaume de Dieu. Et dans cette parabole, Jésus compare le royaume de Dieu à une graine de moutarde, une graine de sénévé. Certains ont vu dans les propos de Jésus une grossière erreur. Et ils en ont déduit qu'il ne savait pas tout et donc qu'il ne pouvait pas être Dieu. Quelle est cette erreur ? Eh bien, en fait, la graine de moutarde n'est pas la plus petite semence du monde. Elle est très petite, vous pouvez le voir, Et pour vous donner un ordre d'idée, il en faut environ 750 pour faire 1 gramme simplement. Elle est donc très petite, mais ce n'est pas la plus petite au monde. Il en existe des plus petites, comme celle du tabac par exemple. Alors peut-être que cela vous est complètement égal, et c'est vrai qu'après tout, ce n'est pas forcément très important, mais cela a suscité bien des débats à propos de la divinité de Christ. Comment répondre à cette objection à propos de Jésus ? D'abord, même si la graine de moutarde n'est pas la plus petite graine qui existe, c'est bien la plus petite graine des plantes cultivées en Palestine. Il s'agissait de la plus petite graine que les auditeurs de Jésus pouvaient connaître. En plus, le terme grec utilisé par Jésus dans ce passage n'est pas un superlatif absolu, mais un comparatif. C'est la plus petite graine que vous connaissez. Donc les propos de Jésus ne remettent donc pas du tout en cause sa divinité, ni non plus l'inhérence des Écritures, le fait qu'elles soient sans erreur, bien entendu. Cette toute petite graine a en tout cas un développement extraordinaire, puisque certaines espèces peuvent atteindre jusqu'à 3 mètres de hauteur, avec des branches suffisamment vigoureuses pour que des oiseaux viennent s'installer dessus. Cette parabole souligne donc le contraste entre la toute petite graine et le grand arbuste, le plus grand des arbustes. Jésus compare donc cette plante, qui est toute petite et grandit très vite, au royaume de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie ? Tout d'abord, cette petite graine représente la mort de Christ. La vie de Jésus pouvait sembler insignifiante, comme le dit bien Ésaïe 53, versets 2 à 3, car devant l'Éternel, il a grandi comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Les Juifs s'attendaient à la venue massive et complète du royaume de Dieu sur terre. Et voilà qu'il commence comme une minuscule graine, insignifiante. Cette vie qui pouvait sembler insignifiante, Jésus l'a offert en vue d'un projet extraordinaire, qu'il pointe en Jean 12, verset 24, où il dit « Vraiment, je vous assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. » Jésus a offert sa vie à la croix pour porter du fruit en abondance. Sa mort nous permet à chacun d'entre nous, de nous tourner aujourd'hui vers le Père en réclamant sa présence dans nos vies. Aujourd'hui, par le sacrifice de Jésus, nous avons un accès libre au Père si nous acceptons cela, si nous acceptons de faire de Jésus notre Sauveur et Seigneur de nos vies. Après le départ de Jésus, le royaume de Dieu a connu des débuts modestes avec une poignée d'hommes persécutés pour devenir aujourd'hui un mouvement qui touche quasiment toutes les nations, toutes les terres, toute la terre, même s'il y a encore des choses à faire, même s'il y a encore du progrès à faire sur cette terre. Et cette parabole met en contraste les débuts insignifiants et même énigmatiques du royaume de Dieu, incarné par la présence seule de Jésus, avec la grandeur du résultat final, qu'on peut lire en Apocalypse 7, versets 9 à 10, qui nous dit « Après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'est des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. Ils proclamaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Josh McDowell de Campus pour Christ a écrit des paroles qui illustrent bien à quel point l'exemple de Jésus, même si certains l'ont jugé insignifiant au départ, peut-être au début, a eu un impact extraordinaire. Il écrit « Il y a plus de 20 siècles est né un homme au caractère vraiment insolite. » C'est un homme qui a grandi dans l'anonymat et la pauvreté. Il n'a pas beaucoup voyagé. Il n'avait ni richesse ni position influente. Ses parents n'étaient pas célèbres. Il n'avait pas une formation reconnue. Il n'a pas fait d'études supérieures. Pourtant, à sa naissance, il était né un roi. Enfant, il a impressionné des théologiens. Devenu homme, il a dominé les éléments naturels, a marché sur l'eau, a calmé les tempêtes, a guéri gratuitement des multitudes sans médicaments. Il n'a jamais écrit un livre, et pourtant les grandes bibliothèques de notre pays ne pourraient contenir tous les livres écrits à son sujet. Il n'a jamais composé un chant, et pourtant les chants dont il est le thème sont plus nombreux que tous les autres chants réunis. Il n'a jamais fondé une université, mais toutes les écoles réunies ne pourraient se vanter d'avoir autant d'élèves. Il n'a jamais pratiqué la psychiatrie, et pourtant il a guéri plus de cœurs brisés que tous les médecins du monde. De longs siècles ont passé. Aujourd'hui, Jésus est toujours au centre de la pensée humaine et le guide du progrès. Je pourrais dire avec justesse que toutes les armées qui ont jamais combattu, toutes les forces navales jamais érigées, tous les parlements qui ont jamais siégé et tous les rois qui ont régné n'ont jamais influencé l'humanité autant que la vie de ce seul individu. Jésus, qui pouvait être méprisé au départ, a fait un royaume extraordinaire dans lequel, j'espère, nous sommes tous les uns les autres, auxquels nous appartenons tous. Une dernière application à travers cette parabole, c'est que le royaume de Dieu, tout simplement, grandit inexorablement, discrètement. C'est vrai que parfois dans nos vies, c'est difficile, on voit dans notre monde, en France, combien de fois il faut parler autour de nous, combien de fois il faut dire, les témoigner, on voit peu de résultats. Mais comme on l'a vu pour ce petit bonhomme d'Australie qui n'a pas vu de résultats pendant 40 ans de son service, Dieu œuvre quand même. Et pour ceux et celles d'entre nous qui ont eu le privilège d'être au Népal pendant 2 semaines, nous avons aussi vu au Népal l'Église qui grandit d'une manière extraordinaire quand on voit ce qu'on vit en France. À Goumi, là où nous étions installés, par exemple, il y avait encore 5 églises il y a 3 ans. Il y en a 8 maintenant. L'église où nous étions, il y avait 150 personnes. Et on a l'impression vraiment que l'évangile progresse vraiment fort et rapidement là-bas. Et c'était une joie, un encouragement, je crois, pour chacun d'entre nous qui avons participé à ce voyage, de constater cela. Ils ont d'autres défis que nous. Ils ont aussi le défi pour affermir les vies chrétiennes. La vie n'est pas simple, bien sûr, là-bas. Mais de voir que le royaume de Dieu progresse dans l'ensemble de la terre est un encouragement. Et nous pouvons être encouragés parce que Dieu l'a promis, son royaume grandit inexorablement. Il est à l'œuvre, c'est Dieu qui est à l'œuvre. En conclusion, n'oublions pas les quelques leçons que nous livre Jésus à travers ces paraboles à propos du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu exige une réponse, si nous ne l'avons pas encore donnée. On est soit dans le royaume, soit hors du royaume. Il n'y a pas de position au milieu. Soit dans, soit hors. Il y a une réponse. Jésus exige une réponse. Le royaume de Dieu nous encourage dans notre témoignage autour de nous. Nous avons notre rôle à jouer dans ce royaume, si nous appartenons à ce royaume. Le royaume de Dieu est d'abord et avant tout l'œuvre de Dieu. C'est le royaume de Dieu, pas notre royaume. Nous sommes là pour semer, pas pour faire croître. Nous pouvons prier, nous pouvons témoigner, mais nous ne sommes pas capables de faire croître la parole de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu avant toute chose. Et enfin, le royaume de Dieu grandit inexorablement et cela doit nous réjouir, nous encourager, nous réconforter quand on voit peut-être les difficultés que nous avons dans notre propre témoignage. Que le Seigneur bénisse encore sa parole et bénisse chacun. Que nous puissions vraiment avoir à cœur le royaume de Dieu dans nos vies à chacun. Amen.